Tout comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Pour savoir ce qu'il se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Celui qui parle, le cinéaste Henri-Georges Clouzot, a suivi celle de Pablo Picasso pour tenter de comprendre le mécanisme secret qui guide le créateur. Mais pourquoi la figure du peintre fascine autant le cinéma? C'est la question qui nous agite ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Le peintre, une existence souvent conflictuelle avec la société, avec lui-même. Une source mélodramatique dans le pire des cas. Un réservoir symbolique inépuisable. Bref, un prisme dont le cinéma s'empare pour parler de l'humain. Oui, bonjour Joachim Lafosse.
Bonjour.
Cinéaste et belge, parmi vos 8 films, Nue propriété, élève libre, à perdre la raison ou l'économie du couple, autour de l'intime, l'humain, ses faiblesses, sa violence, sa fragilité, bref, nous dans le miroir. Des films aussi qui laissent une place au cheminement du spectateur sans lui imposer de point de vue, parce que c'est le regard des autres qui fait l'artiste, en l'occurrence le peintre. Ce thème vous passionne, Joachim Lafosse. Pour nous, vous avez choisi quelques grandes figures de peintres au cinéma, mais surtout de grands acteurs, actrices pour les incarner. Enfin, quelques objets du culte à posséder pour continuer à célébrer chez soi le cinéma, des livres et des DVD. C'est parti.
On donnerait cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait Le bateau ivre. Dans la tête de Mozart pendant qu'il composait la symphonie Jupiter. Pour connaître ce mécanisme secret qui guide le créateur dans son aventure périlleuse. Grâce à Dieu, ce qui est impossible pour la poésie et la musique est réalisable en peinture. Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Vous allez voir, c'est une drôle d'aventure que celle du peintre. Il marche, il glisse en équilibre sur la corde raide. Une courbe l'entraîne à droite, une tache l'entraîne à gauche. S'il rate son rétablissement, tout bascule, tout est perdu. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Et la lumière qui naît peu à peu, c'est le peintre qui la crée paradoxalement en accumulant les noirs.
Le mystère Picasso d'Henri-Georges Clouzot, l'exemple unique au cinéma de l'artiste au travail, Picasso réalise pour le cadre de Clouzot ce qu'on pourrait appeler des peintures cinéma, filmer le processus créatif et se demander d'où vient le génie. C'est quand même le fantasme absolu, ça, Joachim Lafosse.
Alors, je trouve formidable de commencer par là. Parce que Clouzot, je pense, va inspirer Rivette, va inspirer. C'est-à-dire, il n'y a pas de film sans mystère. Il faut aller creuser quelque chose pour filmer avec justesse. Et ce que Clouzot fait de fantastique, c'est le dispositif.
Oui.
C'est de contraindre Picasso à une durée, et Picasso s'en joue et s'en amuse.
Oui.
C'est moment. Il vous reste combien de temps de pellicule, Monsieur Clouzot? Alors 10 minutes, 3 minutes, ça vous ira. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et les deux s'amusent de ça.
Oui.
Et en fait, ce n'est pas un documentaire pour moi. C'est une fiction avec Clouzot. Et il y a, et ce que je trouve de très beau, c'est qu'on, c'est vrai qu'on voit, le dispositif est génial. La caméra est derrière la toile qui est transparente,
ouais.
Et donc on peut observer le geste de Picasso.
Oui.
Et ben le mystère reste quand même là, on comprend
toujours pas.
Mais c'est fascinant, c'est absolument fascinant.
Pourquoi la figure du peintre alors fascine autant le cinéma, Joachim Lafosse?
Alors ça c'est une certitude, parce que quand vous parlez à un directeur photo de film où il sur des peintres, ou vous dites à un directeur photo, on va filmer la vie d'un peintre. Tout de suite, il y a les yeux qui brillent. C'est-à-dire que la question de la manière de cadrer, de la gestion des matières, des couleurs,
la lumière,
mais ça parle, c'est-à-dire ça rassemble. C'est la même chose avec la déco ou avec les costumes.
Mais vous êtes déjà parti d'une peinture pour faire un film.
Alors c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est traître, parce que quand on dit à un chef-op, enfin, c'est tellement puissant la peinture,
ouais,
que essayer de faire comme, de suivre, ben on est toujours déçu, quoi. Donc je pense que chacun avec son pinceau, mais c'est des inspirations, c'est mais il y a quand même une chose, par exemple, moi je trouve qu'il y a rien de tel que la lumière naturelle. Je supporte plus le
studio,
le l'artificiel de lumière installée. Et donc il faut regarder d'où elle vient, comment elle va, elle change avec la journée. Il faut aller vite parce que sinon on va la perdre. Je pense que là il y a des parallèles à faire. Bon, voilà, c'est et puis il y a quand même quelque chose, c'est que des êtres se laissent regarder, comme des modèles se laissent peindre. Enfin, c'est bon. Il y a aussi quelque chose. Moi, je suis très admiratif des peintres parce que ils sont moins soutenus que nous. Aujourd'hui, arriver à être peintre, c'est une bagarre incroyable. C'est comme les photographes, il y a très peu de subventions à la peinture, et donc trouver son chemin en tant que peintre, je suis devenu l'ami d'un grand peintre anversois,
oui.
Piet Ramdonk, et que il ne regarde pas comme nous, comme moi. Je dirais, tout est différent. Et il y a aussi quelque chose de fascinant pour un cinéaste, c'est des êtres qui ont leur langage, c'est pas la parole. C'est autre chose, c'est plus archaïque, c'est des sensations, c'est ça.
C'est pour ça que c'est très difficile à raconter au cinéma, en fait, en plus.
Peut être très cinématographique.
Oui, mais c'est aussi compliqué de raconter les états d'âme.
Oui, mais c'est des personnages qui ne se disent pas, on sait qu'au cinéma, quand tout d'un coup on psychologise ou qu'on s'explique trop, c'est pénible. On va en parler avec les extraits, mais. Ouais. Ce que Dutronc fait de Van Gogh, son silence, son mutisme, en même temps sa présence en opposition comme ça avec le réalisateur, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'il arrive à faire voir qu'il y a un autre monde chez chacun, chez lui.
Dans la multitude de biopics de peintres au cinéma, très peu de femmes, à l'image de ce qu'elles ont représenté dans la peinture en général, et pourtant vous en avez choisi une pour commencer. Sans doute la première femme peinte de l'histoire de l'art, c'est Artemisia, représentée dans un film signé Agnès Merlet, Italie 1610. Elle est fille de peintre elle-même, interdite d'académie qui n'est réservée qu'aux garçons, et encore moins autorisée à peindre un modèle masculin nu. Pourquoi ce parcours initiatique que vous avez...
Alors, Céline Sciamma fait entendre, et c'est fondamental, la place des femmes dans l'histoire de la peinture,
ouais.
C'est effrayant,
ouais.
C'est sidérant.
Ouais.
Et il y a eu, avant Céline Sciamma, il y a quelques réalisatrices, Agnès Merlet avec Artemisia. Alors Caroline Champetier a fait un téléfilm autour de Berthe Morisot qui est absolument magnifique. Il y a un film canadien maudit d'une réalisatrice canadienne dont j'ai pas le nom. Enfin voilà, il y a quelques réalisatrices qui ont fait entendre qui ont essayé de faire voir cette réalité. Quand Bruno Neuten fait son Camille Claudel, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on voit la difficulté. Et ces auteurs et ces autrices font voir c'est impensable, c'est inouï de se dire que, par exemple, Artemisia, à un moment, son père doit dire que c'est pas ses peintures à elle pour la sauver. Parce que ça peut pas être les peintures d'une femme. Mais, en fait, ces réalisatrices, c'est fondamental ce qu'elles viennent nous raconter.
Oui.
Parce qu'elles font comprendre le monde dans lequel on est. Puisqu'on les a pas, ces peintures. Elles sont pas là. On a raté, le regard du féminin pendant des siècles.
Mais oui, c'est le...
C'est une lutte constante, mais j'espère qu'aujourd'hui on va plus se priver de ça.
On va aller directement à un autre film, parce que lui il est réalisé par un homme, c'est Séraphine. Alors là, c'est un autre exemple. C'est une femme peintre, déjà c'était pas courant au début du XXe siècle, mais encore plus une femme de ménage qui se dit habitée, qui entend des voix et confie que sa main est guidée. Séraphine, donc au service d'un collectionneur allemand, qui va lui révéler son talent.
Séraphine ?
Oui, monsieur ?
Vous ne m'avez jamais dit qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre. C'est quelqu'un de votre famille?
Je n'ai personne, monsieur.
Un professeur? Vous avez pris des cours?
Non, monsieur.
Il y a bien eu un événement dans votre vie, quelque chose... C'est curieux, cette matière. Ce rouge, par exemple. C'est quoi ?
Monsieur, j'ai mes petits secrets. Je les garde pour moi, sinon ce ne sont plus des secrets.
En tout cas, c'est fort. Très fort.
J'y vois bien des défauts.
Qu'est-ce que vous faites ?
Je vais passer la salle, c'est bien, monsieur.
Maintenant, je vais vous dire ce que je pense, Séraphine. Vous êtes douée. Mais il va falloir travailler beaucoup. Beaucoup. Ne vous souciez plus jamais de ce que disent les autres. Ils n'y connaissent rien. Je vais m'occuper de vous.
Séraphine Martin-Provost, Joachim Lafosse...
Non, mais il y a Yolande Moreau.
Oui, c'est ça.
C'est hallucinant.
Elle dit, par mon corps, j'ai essayé de lui donner une deuxième vie. C'est vrai, hein, c'est son corps qui joue aussi beaucoup.
Alors, il y a... Les comédiens qui ont joué des peintres, alors j'ai évidemment pas vu tous les films autour de peintres, mais ceux que j'ai vus, il y a quand même, c'est souvent des acteurs qui ont d'autres vies que celles que le cinéma, qui ont d'autres activités. Dutronc chante, Malkovich qui a fait Klimt dessine des vêtements.
Oui, c'est vrai.
Mais même Michel Simon, j'ai l'impression, enfin il semblerait qu'il s'intéresse autant à son jardin qu'au tournage. Il y a d'autres exemples comme ça. Et Yolande Moreau, moi j'ai souvenir de l'avoir rencontrée enfant. Et quand elle est rentrée dans la maison chez ma maman, il y avait un autre monde qui arrivait, quoi. C'est-à-dire que c'est, mais sans être spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y avait une attention, une bienveillance, quelque chose de une présence incroyable. Personne ne peut parler Séraphine comme elle. C'est elle. Mais je ne connais pas, je n'ai pas, évidemment pas connu Séraphine, mais elle l'incarne. Mais c'est fou. La voix, la manière de marcher, c'est cette manière de venir et aussi de alors ça c'est, on trouve il y a ça chez Renoir aussi et le personnage de Séraphine en ça est très émouvant, c'est cette manière de ne pas cliver, de pas séparer la nature et les êtres, c'est-à-dire que c'est un tout.
Oui.
C'est un tout et on n'a pas, et ça c'est d'une modernité inouïe, parce qu'on va être obligé de se rendre compte de ça, parce que sinon ça ne va pas, mais donc cette manière de dire, vous savez, à son... Et dans l'extrait que vous nous faites entendre là, il y a quelque chose que je trouve de super émouvant aussi, c'est que l'artiste, il y a deux artistes, celui qui regarde et celui qui peint, et que il faut de l'imagination pour voir une peinture. Et cet homme qui va devenir son mécène, qui va l'aider, qui a ses propres souffrances parce que il a une collection et puis elle est complètement dissoute par la guerre. Cet homme vient là, il la voit, il l'entend, il la regarde, il est...
En parlant d'acteurs qui ont un autre job, bien sûr, Dutronc qui a incarné Van Gogh pour Piala. En 1991, on écoute Dutronc.
C'était quelqu'un de totalement anonyme. Bon, il s'appelait Van Gogh, mais il savait pas qu'il allait être le Van Gogh qui allait écouter ou qui allait avoir la cote de temps et le temps de milliards. Donc, c'est pour ça que... On a montré un homme plus qu'un homme ou un artiste. Enfin, moi, je dirais plus un homme qu'un film historico-dramatico sur un peintre maudit dont tout le monde sait que... Alors, on tombe sur les clichés hollywoodiens, plus ou moins l'oreille, enfin, les machins, les quadricotes. Ouais,
les pensifs.
Mmh. Et là, on peut pas faire de bouche à oreille, si je puis dire, vu qu'on tomberait dans les mêmes trucs. Mais c'est plus l'histoire d'un homme, quoi, qui vivait vraiment.
Oui, c'est ça, l'histoire. C'est un chef-d'œuvre, bon, c'est Van Gogh de Piala.
Non, je pense que c'est le plus beau film sur un peintre. Enfin,
oui,
autour de...
Ouais.
Mais alors, parce que Piala est peintre.
Oui. D'ailleurs, c'est sa main qui peint au début.
Ouais. Alors, Dutronc a cette chose où il semblerait qu'il a, il se voyait pas mal pour les films précédents avec Piala.
Oui.
Il a été question qu'il joue dans Police, etc.
Oui.
Et puis, en fait, quand il a décidé d'aller faire le Van Gogh, il a dit contractuellement, il y a une chose que je veux, c'est que je n'ai pas à peindre. Mmh. Et très intelligemment, parce qu'il sait très bien qu'il va pas aller se confronter à Van Gogh et à Piala. Mmh. Alors il y a cette chose fantastique que fait Piala et que malheureusement on ne voit pas dans beaucoup d'autres films, c'est qu'il raconte, c'est pas un biopic. C'est-à-dire que en vous proposant des extraits et en leur revoyant, je me suis rendu compte à quel point Van Gogh, enfin Dutronc n'a quasiment pas de réplique. C'est-à-dire que Hatt, c'est aussi Piala qui regarde bien plus presque l'entourage de Van Gogh et qui va chercher à gauche, à droite, comme ça, dans une fragilité de réalisation et de regard sur la quotidienneté de ce peintre inconnu qui tente de faire avec sa psychose, qui manifestement n'entend pas le monde de la même manière que les autres. Et ben il arrive à faire, parce qu'en fait tous les personnages secondaires sont de nouveau comme chez lui toujours mais magnifiques.
Il essaie pas de percer le mystère en fait, Piala, et peut-être qu'il y arrive comme ça d'ailleurs.
Oui,
c'est peut-être comme ça qu'il y arrive, c'est-à-dire mais il y a une volonté de ne pas tenter de percer le mystère Van Gogh.
Exact. Et oui, mais d'essayer de se donner le droit de regarder, oui. Mais regarder avec son regard, d'être ému. Il y a un moment, le maréchal Ferrand qui débarque, qui va proposer un verre, va boire un verre avec Piala. Le maréchal Ferrand, on peut pas faire plus vrai, maréchal Ferrand. Le tout d'un coup, c'est les petites choses. On en sait. Enfin, puis un petit garçon qui pleure, et Piala et Van Gogh qui lui fait un dessin, ouais. Et puis le garçon s'arrête de pleurer.
Et Piala qui parle de lui aussi quand même.
Piala qui parle absolument.
Bah oui, par rapport
mais pudique, au milieu, mais pudiquement. Avec une élégance. Les personnages secondaires qui viennent, et ça je trouve ça toujours très drôle, et c'est complètement... c'est les jeunes filles qui viennent contredire tout d'un coup Van Gogh en lui disant « Mais ta peinture, en fait, tu nous emmerdes un peu. » Et elles se rendent pas compte d'à qui elles ont affaire. Gachet, que je kiffais ses pompes parce qu'il a perdu sa femme et qu'en même temps, il est en pleine forme. Ouais. C'est magnifique.
Et vous avez choisi un extrait entre les deux frères, entre Vincent et Théo, où justement là, Vincent parle un petit peu.
Oui.
T'as l'œuvre entière du plus grand peintre de notre époque et t'en fais rien.
T'es le plus grand peintre maintenant.
Exactement, c'est moi. Et tu dors sur mon œuvre, mes toiles sont sous ton lit.
Où tu veux que je les mette?
Expose-les.
Et tu veux pas, tu veux que je ressorte tes lettres?
À une œuvre entière qui t'aura pas coûté cher.
Mais comment tu peux dire ça? T'es horrible, Vincent. Hein, un jour ça cassera, si tu continues comme ça, je pourrai plus te soutenir.
Me soutenir? Non, mais laisse-moi rire. Finalement, t'es qu'un vulgaire marchand comme les autres, un exploiteur d'artistes, un négrier. Tu amasses une œuvre que tu achètes au dixième de son prix. Et pour 150 francs par mois, tu as au moins 20 toiles de moi auprès d'une seule toile d'un impressionniste de deuxième zone.
C'est une mauvaise foi écœurante, mais tu dois t'écœurer toi-même à dire de telles monstruosités. Maintenant, il y aura vraiment quelque chose de cassé entre nous.
Cassons, je ne demande que ça, j'ai pas peur. Je vais m'en sortir. Ça sera bien mieux comme ça, je faisais que de la mendicité.
Tu mens, mais tu mens. Toutes ces toiles, elles sont à toi, hein, seulement à toi, pour toujours.
Ah, des mots, tes belles phrases, pour toujours. Et si je mourais, à qui elles iraient, ces belles toiles, hein? À qui, dis-le? Vous seriez bien capable de les foutre en l'air, comme maman l'a fait à Nunem? Vous n'avez jamais cru en moi dans la famille. Personne! Foutez-moi ça en l'air, je disais.
Écoute, jamais dit ça, mais vous avez été chercher ça.
Je le sais, c'est tout.
L'amour haine entre les deux frères, quoi.
Et ça rend, c'est aussi regarder ça rend humble hein, les peintres, parce que l'âpreté du parcours est. Je suis très admiratif. Et on le sent que Piala est admiratif. On le sent. Et en tant que cinéaste, ça rend humble. Alors il y a une dimension aussi. Piet Ramdonk, ce peintre que je rencontre, me dit régulièrement. Il me dit t'as de la chance, t'es pas tout seul. T'as ton équipe. Il peut lui arriver de venir me voir sur un plateau. Il me dit tous ces gens. Et en fait, alors. C'est le miracle du cinéma. Quand vous mettez une somme d'artistes ensemble pour faire une œuvre, mettre 25 peintres ensemble pour peindre une toile, c'est pas gagné. Mais alors on a ce truc. Alors parfois, moi je suis envieux parce que je me dis, si je pouvais pas devoir convaincre 100 personnes avant de faire un film et que je pouvais aller peindre tout de suite, ouais. c'est quelque chose. Mais c'est des questions justes, quoi. Je trouve que c'est comme en tant que cinéaste, se confronter au théâtre, se demander ce qui distingue ces deux langages. C'est une manière d'interroger le cinéma aussi. Et la peinture, et en tant que cinéaste, aller filmer un peintre, c'est interroger le cinéma aussi. Enfin, cette intertextualité, elle est fascinante.
Lui était plus ancré dans son époque, plus reconnu. C'est Turner, à travers ce film, oui. Monsieur Turner de Mike Leigh, avec le grand Timothy Spall. Donc, c'est le récit fragmenté des 25 dernières années. Donc, Turner, né en 1775, mort en 1851. Donc il était reconnu de son vivant, peintre de la lumière, on a dit l'un des précurseurs du courant impressionniste, artiste complexe, il éructe, il grogne, ouais. Il crache, il est bougon, il est grimaçant, il n'est pas aimable. Hein.
Ou complètement charmant. Il est enfantin, plus encore archaïque qu'enfantin,
ouais.
Il est presque, c'est presque... C'est une pulsion sur pattes, en fait. Il mange, il baise,
oui.
Et il peint. Mm. Mais en même temps, il est amoureux. Parce que cette femme
qui
va rejoindre sur son île et qui l'accompagne jusqu'à la fin, jusqu'à la maladie, je trouve ça c'est très très beau. Mais ce comédien est fou, vraiment. Là, on est dans le c'est pas de l'ordre c'est pas de l'ordre de la névrose, de la plainte. Cette manière de regarder et puis d'être coquin, quoi. Je trouve aussi, quand il va regarder les autres peintres et puis il va peindre sur les toiles des autres peintres en disant mais c'est pas bon.
Il ajoute une bouée.
Voilà. Mais tout grand acteur, prix d'interprétation à Cannes. Voilà.
Lui a mis en scène un peintre vieillissant, c'est Michel Piccoli qui a abandonné 10 ans un grand tableau dont sa femme était le modèle. Il va reprendre son œuvre avec une jeune femme incarnée par Emmanuel Béard. 5 jours de pause, La Belle Noiseuse, 1991, Jacques Rivette. C'est un peu l'impuissance de l'artiste et l'importance de son travail sur sa vie privée. Et c'est aussi un rapport dominé entre le peintre et son modèle, bien sûr. C'est pour ça que vous l'avez choisi, Joachim Lafosse.
Non. En fait, je suis pas assez... C'est surtout... La sublimation suffit pas pour être heureux. L'art n'est pas c'est une clé, mais c'est pas la solution finale. Et en même temps, et le modèle, elle, je crois qu'elle est regardée comme elle a jamais. Elle le dit à la fin du film, elle me dit je ne serai plus la même. Mmh. Mais au fond, ce qu'il y a surtout, c'est qu'elle a été regardée sans être consommée. Et on a fait, enfin, et ça, elle fume tout le temps.
Oui, elle fume tout le temps.
Piccoli vient l'empêcher de fumer. Il dit arrêtez un peu de fumer. Il y a quelque chose. Moi, je trouve Béard très. Elle est très maladroite. À un moment, il lui demande de s'installer par terre. Elle se cogne la tête contre le sol. Et puis Piccoli. Alors, il y a quelque chose que je trouve moins heureux. C'est toute la partie sur les empaillages d'animaux par Jane Birkin, etc. C'est un peu long. Il y a une chose que il y a Rivette. Dont là, on perçoit très bien qu'il est fasciné aussi comme Clouseau par le geste.
Oui.
Et qui se permet de faire 6 passages dans le film de plus de 4 ou 5 minutes de ce peintre dont j'ai plus le nom.
Bernard Dufaux.
Voilà, Bernard Dufaux,
ouais.
qui fait des encres qui sont absolument magnifiques.
Ouais.
Et en fait, on assiste à la naissance des encres en direct, comme spectateur. Et ça, ça démontre un amour pour la peinture ou le dessin qui est indiscutable.
Et puis il y a ce grand acteur Piccoli. Voilà. Ouais.
Je veux l'invisible.
Écoutez bien, juste ça, si on entend le bégaiement.
Je veux. C'est pas moi qui veux. C'est la ligne, le trait. Personne ne sait ce que c'est qu'un trait. Je cours après, moi. Je cours. Je vais où? Au ciel, pourquoi pas? Pourquoi un trait ne crèverait pas le ciel?
Oh, putain, tout ce que vous voulez, mais moi j'en peux plus.
Mais ça vient de commencer! Plus de seins, plus de ventre, plus de cuisses, plus de cul. Les tourbillons. Les galaxies. Le flux et le reflux. Les trous noirs. Le grand œil bleu des origines. Vous en avez entendu parler? C'est ça que je veux de vous depuis le début.
Joachim Lafosse, je voudrais vous citer une phrase de Piccoli qui est vachement intéressante par rapport à votre métier. Il dit, un peintre qui veut entrer en possession de son modèle, que vivons-nous d'autres, nous les acteurs, face au metteur en scène? Il nous possède et nous avons besoin de cette possession, mais en même temps, le bonheur et l'honneur du comédien, c'est d'inventer librement en offrant au réalisateur.
Comme le peintre doit se laisser engloutir parce qu'il observe et par le monde dans lequel il est.
Ouais.
Mais pas le réel, celui le sien.
Oui.
Et il faut se laisser engloutir. et puis en sortir, et puis recommencer, et puis en sortir. Ça, c'est le propre des artistes, enfin, j'espère. Mais il y a une chose, Thomas Bidguin, que j'adore, et qui est drôle, et qui est un talent inouï.
Qu'est-ce qu'il a dit
à l'époque, quand je travaillais avec lui, il dit un truc génial, il dit... Mais putain, cette génération d'acteurs, c'était des pères. Aujourd'hui, c'est des fils.
Embêtant.
Alors, lui, non, mais il y a des pères. Il y en a des pères. Ouais, mais je veux dire, c'est pour moi, Piccoli, voilà, c'est des hommes. Quoi.
Alors là, lui aussi, c'est un père. C'est Michel Simon. Dans La Chienne de Jean Renoir, marié à une veuve acariâtre, Maurice Legrand, un violodingre, la peinture, il tombe sous le charme de Lulu, une jeune femme exploitée par un souteneur. Celle-ci va abuser de sa crédulité. Tiens, on va écouter une scène entre Michel Simon et sa femme qui lui reproche de peindre.
Tu l'as pas fini de faire, l'idiot ?
Je te demande pardon, je voulais faire doucement.
Attention, ça va partir.
D'abord, pourquoi rentres-tu si tard ? T'avais dit d'être ici à 11h.
C'est fantastique.
J'ai resté avec les camarades, le patron a fait des discours, le député était là.
Ce n'est pas une raison pour me réveiller avec tes sales tableaux. J'en ai assez de ta peinture. Tu vas me faire le plaisir de me débarrasser de ces toiles qui encombrent mon appartement. Et personne qui vient de me voir à mon jour a l'impression d'être dans une boutique de bric-à-brac.
Dérange du mieux que je peux.
Je ne vais plus les voir, entends-tu? Arrange-toi pour les enlever. Sinon, je fais monter le chiffonnier. Et je lui donne toutes ces saletés en porte. Compris? D'abord, on n'a pas d'idée de faire ta peinture.
Une seule distraction.
Il n'y a pas besoin de prendre une distraction. C'est la risée des voisins. Avec tes prétentions à l'artiste.
Oh, artiste.
Ah, c'est pas mon premier mari. J'aurais jamais perdu son temps à faire l'idiot et de la pâque.
Michel Simon, petit bourgeois brisé par les conventions. Ouais. Ouais.
Et surtout, Renoir qui, tout d'un coup, se confronte à un personnage de peintre. Mmh. Mais alors, ce qui est fou, c'est que ça doit pas être simple. D'être le fils, justement.
Oui.
Et là, il décide d'en faire, de raconter un type qui n'ose pas dire qu'il en est.
Oui.
Et dont pourtant le marché et les marchands profitent. Oui. Parce qu'au fond, c'est ça. Et je pense que et Jean, c'est ça. Il le fréquente, le marché, il voit ce que c'est. Oui. Et la manière dont aussi je trouve dont Michel Simon joue à côté. Il joue à côté de, c'est-à-dire il joue magnifiquement un type qui joue mal. et qui au moment où il rencontre cette femme se met à peindre son autoportrait.
Oui.
Et parce qu'avant il peint pas l'autoportrait. Oui. Donc on a l'impression que ça va peut-être mieux. Et puis alors il y a comme chez Renoir, et c'est assez splendide, il y a pas de morale évidemment, et c'est-à-dire que c'est évidemment le coupable qui va être innocenté, et finalement celui qui est d'une classe plus inférieure qui va prendre alors qu'il est innocent. Mais le film, il y a des tableaux d'Auguste dans la vitrine du marchand. Ce film est fantastique, vraiment fantastique.
La Chienne, Jean Renoir.
Michel Simon était, j'ai appris ça récemment, en fait, était amoureux de la comédienne
qui joue sa maîtresse. Laquelle est amoureuse de l'acteur qui joue son amant.
C'est net. Et en fait, dans la vie, les deux vivaient ensemble et ils ont eu un accident de voiture. Mais Simon était amoureux d'elle aussi.
Ouais.
Donc, et j'ai vu une interview de Simon avec Jean Renoir où quand Jean Renoir lui parle d'elle, il est pas loin de fondre en larmes. Il y a quelque chose qui
se passe. Oui, ils sont morts tous les deux en voiture après le tournage. On va terminer avec deux peintres new-yorkais, un pas connu dans une New York Stories, mis en scène par Scorsese, c'est Lionel Dobby, un peintre renommé à 3 semaines d'une expo qui n'arrive plus à créer parce qu'il s'engueule avec sa petite copine qui est son assistante, qui est en fait une peintre qui n'arrive pas à peindre parce qu'elle est mangée par cet homme.
Ouais, ça, je sais pas si ça tient la route encore, mais
vous l'avez choisi.
Non, mais c'est très branché.
C'est l'énergie Nick Nolte.
J'ai vu le court métrage de Scorsese. Il y a quelque chose. En fait, moi, je trouve que le film ne tient plus la route. Mais
ce qui est beau, c'est l'énergie que met l'acteur Nick Nolte dans
Nick Nolte est formidable, mais il je sais pas, il y a quelque chose de cette femme qui est complètement dépendante, enfin qui a l'air dépendante de lui, qui n'arrive pas à en placer une, lui qui est dans son loft de 300 mètres carrés, qui joue au basket à côté de son tableau.
On va écouter un petit extrait quand même entre les deux.
C'est drôle, tu sais, ça devient de plus en plus passionnant.
Passionnant, comment ça?
C'est pas chiant. Tu me sens une petite touche d'ironie chez toi, c'est bien.
D'ironie?
Oui, d'ironie, c'est bien.
Et t'attention, ça va?
Ça va.
Non, l'autre fois.
Bien.
Bien.
Oui, bien.
T'es vraiment un sale con.
T'es la seule personne au monde qui peut dire ça devant moi sans se faire tuer.
Écoute, est-ce que tu trouves que je suis bonne ou non? Réponds à ça. Hein? Dis-moi si j'ai un peu de talent, alors dis-le-moi si je perds mon temps à peindre.
C'est Rosanna Arquette.
Parce que j'ai bien envie de tout laisser tomber. Parce que... Écoute, donne-moi ton avis. Dis-moi.
Mais qu'est-ce que ça changera, bordel, mon avis? C'est ton truc. Tu fais de la peinture parce que t'es forcé, parce que t'as pas le choix, alors il s'agit pas de talent, t'as pas d'autre choix, peindre ou rien. Quant à dire si t'es bonne, t'as 22 ans, on n'en sait rien. Et puis qu'est-ce que ça change? T'en as marre, alors laisse tomber. Mais laisser tomber, ça voudra dire que tu faisais pas le poids.
On arrêtera là avec New York Stories, hein. On va plutôt rester sur Basquiat.
Ouais.
En dernier, Basquiat de Julian
Mais c'est
Schnabel.
La différence avec Séraphine, qui y a quelqu'un qui vient lui parler. Qui vient demander, alors que c'est écrit par Scorsese. C'est-à-dire que comme si elle devait exister par le regard de Nick Nolte. Bon, Nolte est fantastique, mais
il part en musique d'ailleurs.
Ouais.
Basquiat, Julian Schnabel, c'est quand même un film sur un peintre, réalisé par un peintre.
Ouais.
C'est très unique, ça.
Ouais.
Ils se connaissaient. En plus, ils étaient plus ou moins en concurrence, ouais. Basquiat et Schnabel. Premier artiste noir Basquiat à avoir réussi dans le monde des arts. Il a disparu en 88, il n'avait que 27 ans. Alors, il se joue des préjugés que les gens peuvent avoir sur lui dans la peinture. Il les détourne. Puis c'est aussi beaucoup un film aussi autour de la relation entre Warhol et Basquiat.
Absolument, absolument. Et les marchands qui se disputent un peu l'un et puis l'autre, l'un qui revient puis qui l'autre qui se fait éjecter. Je parle de Schnabel et Basquiat.
Ouais.
Mais il y a une somme de Bowie qui fait Warhol.
C'est...
Bon, il y a le problème du biopic, je trouve, où il faut tout raconter.
Non, mais c'est un drôle de truc ce film, parce qu'on a appris, on sait qu'il a été jaloux de lui. On sait pas quel regard il porte finalement sur Basquiat.
Alors, il y a quelque chose, je trouve, dans le regard de Schnabel sur Basquiat qui est assez beau. Il y a un documentaire sur Schnabel dans lequel on voit bien que c'est un type qui est plutôt du côté de la pulsion de vie.
Ouais.
Et qui aime le surf, qui ne s'occupe pas, d'ailleurs, il le dit dans il fait dire à Basquiat ou aux copains de Basquiat, si tu veux faire une carrière, tu dois tout le temps faire la même œuvre, garder ton style. Schnabel a changé constamment de style, n'a jamais fait ce qu'on attendait de lui, au fond. Et ça, c'est une forme de vitalité. Or, Basquiat, c'est vrai, s'est fait bouffer. Enfin, il a cramé, quoi. Et donc, le regard sur la pulsion de mort qu'un artiste peut avoir et sur cette part destructive, je trouve assez sincère, je pense sincère, ce qu'en dit Schnabel.
Il dit « Je voulais faire un requiem pour Andy et Jean-Michel ».
Voilà, mais je crois que Schnabel est du côté de la vie, quoi, vraiment.
Ouais.
Et puis il peint, puis il est quand même, ça marche pour lui à New York. Puis il décide d'arrêter pour faire du cinéma.
Ouais.
C'est pas mal.
Et même un film sur Cuba qui était très bien aussi.
Donc il est libre, quoi. Et il y a ces images de surf. Alors ça, je trouve ça intéressant. Dans le début du film, Basquiat regarde vers le ciel et en fait il voit des vagues de surfeurs. Et c'est l'idée de la vague, de ce moment qu'il faut suivre et trouver le bon moment et être là à la bonne vague, et puis en même temps que la mer peut être dangereuse, et c'est un truc qui revient dans le film. C'est un peu bateau, c'est le cas de le dire, mais je crois que c'est sincère de la part de Schnabel. Là, je lui ferai pas un procès en Non. Un procès d'intention. Non. Voilà, il est...
Comparé à Scorsese. On va, alors, tous ces films s'appellent Artemisia, Séraphine, Van Gogh, Monsieur Turner, La Belle Noiseuse.
Le Champetier.
La Chienne, New York Stories, pouvez. Basquiat et Le Champetier.
Oui.
Sur Berthe Morisot.
Et le Munch de Watkins.
Oui, donc
on n'a pas parlé, mais pour moi qui est un des plus
beaux. Voilà. Ouais, extraordinaire. On se retrouve après Benjamin Biolay et Juliette Armanet. Vous restez avec nous, bien sûr.
Une chanson qui sent bon le chagrin, pour te dire combien je suis seul, pour te dire combien je suis las. Un couplet aux airs de faux refrains, pour dire combien la vie est laide, oui combien elle est dégueulasse. Une chanson qui frise la complainte, pour te dire que la pluie est triste, pour te dire que la neige est crade. Que la lumière n'est que demi-teinte, que j'ai l'air d'un équilibriste, plus que d'un avaleur de sabre. Je me souviens de ton doux dessin bruit en ligne, puis rien de rien, plus un mot. Un bâton de cils. Je me souviens, je me souviens. Une chanson qui sent bon le chagrin, te dire que j'ai un chat persan qui se niche au fond de ma gorge. Un couplet aux airs de faux refrains qui sent ni la sueur ni le sang, pareil au chant du rouge-gorge. Une chanson qui jouxte mes prières, pour te dire que je me sens vide, pour te dire que je suis une épave, et que je ne vois même plus la lumière, mais dans le loin des pyramides, pardonne-moi, je sens du cœur. Je me souviens de ton doux ressent bruit, puis rien de rien, plus un mot.
Voilà, alors, on était en train de rire. Vos choix, Laurent, pour rester chez soi et aller au cinéma en même temps. Et lire du cinéma. D'abord, un livre sur Louis Jouvet, par Olivier Rony, aux éditions Folio Biographie.
Oui, prof de lettres, Olivier Rony. Donc, dans cette collection de poches, hein, c'est une collection avec des inédits originaux, mais c'est tout de suite en poche, c'est agréable. Un joli livre de poche, d'ailleurs, avec en plus un joli carnet de photos au milieu. Donc, c'est de la vraie édition, c'est pas de l'édition cheap.
Oui.
Et c'est évidemment sur Jouvet. Alors, on a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut écrire de neuf sur Jouvet? Ben, une belle bio classique, oui. Chronologique. Oui, mais c'est bien de replacer
qui privilégie le théâtre aussi beaucoup.
Alors, privilégie, ben, c'est-à-dire que c'est sa carrière qui est éminemment théâtrale, mais il y a quand même 30 films.
Oui,
et si
sûr,
on commence à les détailler, et vas-y, Quai des Orfèvres, et vas-y, La fin du jour de Duvivier,
Drôle de drame,
et L'Hôtel du Nord, et Drôle de drame,
ouais.
Et Volpone, et Knock, enfin, ouais. Bref, que des choses qui. Et puis, des petits, même des petits films un peu moins connus, petits entre guillemets, dont parle Rony, comme Les amoureux sont seuls au monde, d'Henri de Coin, qui est une merveille, grâce notamment à Jouvet, qui était un diseur extraordinaire. Quand on vous parliez des pères en cinéma comme Piccoli, je pense que Jouvet est désormais un grand-père, mais ouais. En tous les cas, il a été un père au cinéma, pour le cinéma pendant des années. Immense acteur. Donc cette belle bio lui rend évidemment hommage et déroule cette incroyable carrière avec des mots très choisis, avec de belles descriptions d'ailleurs de certaines scènes par Olivier Rony. Je le rappelle, Louis Jouvet, par Olivier Rony, chez Folio Biographie.
Une cinéaste américaine, Kelly Ricard, L'Amérique retraversée, très beau titre,
oui.
Pour une réalisatrice qui regarde l'Amérique autrement. Et c'est le premier livre en français consacré à la cinéaste.
Exactement, et il est signé par Judith Revaud-Dallone, il est publié aux éditions de l'Incidence avec le Centre Pompidou, parce qu'il devait y avoir, il devait y avoir en début d'année une rétrospective, oui, qui est, enfin début d'année dernière, quasiment, Kelly Reichardt. Bon, on espère qu'elle va arriver.
On y sera tous.
Ouais. On y sera tous, hein, ouais, parce que c'est vraiment l'artiste essentiel, la cinéaste essentielle du cinéma, même pas américain, du cinéma mondial, parce que franchement, c'est quelqu'un qu'on découvre film par film avec un appétit de cinéma incroyable. Elle dit, mes films parlent de personnages perdus qui essayent de trouver leur route. Et mon travail de cinéaste à moi est parallèle. Comme mes personnages, je cherche ma voix en faisant le film. Fin de citation, magnifique chose. Alors Wendy et Lucie, on le rappelle, certaines femmes, la dernière piste. Et puis First Co, qu'on a vu.
On l'a découvert à Deauville, un autre récit sur la conquête de l'Ouest.
Qui est toujours pas sorti, hélas, ouais, mais quand il sortira, précipitez-vous. Et ce bouquin est non seulement un bel essai de Julie Trovo-Lalonde, qui est très inspirée par cette cinéaste inspirante, mais il y a aussi des extraits de storyboard, des photos, des dessins, des croquis, et puis trois entretiens, un de Todd Haynes avec Kelly Reichardt, un de Gus Van Sant avec Kelly Reichardt, et un de Julie Trovo-Lalonde, l'auteur, avec Kelly Reichardt. Non, franchement, c'est un très très bel ensemble sur cette cinéaste qui le vaut tellement. Édition de l'Incidence, Centre Pompidou, on rappelle le titre merveilleux, L'Amérique retraversée, Kelly Reichardt.
Je serais plus circonspect sur le film que vous proposez en DVD, qui est Le Camion de Marguerite Duras à la Gaumont.
Eh ben oui, c'est le quatrième film du couple Duras Depardieu, le quatrième et l'ultime. C'est une lecture à deux, avec hors champ mais présent régulièrement un camion qui passe dans les banlieues parisiennes, pleines de ronds-points, pleines de nuit, immensément bien photographiées par Bruno Nuitten. Écoutez ce que disait Gérard Depardieu au moment de la sortie à Cannes. Oui, le film a été à Cannes, il a été évidemment au centre d'une polémique incroyable. Moi, je crois que c'est un film de génie, disait Depardieu. C'est aussi de l'anti-cinéma, mais je pense que c'est très important de faire ça. Ça sert toujours. C'est aussi important que Godard, avec toutes les expériences qu'il mène en ce moment. C'est un film dont on parlera encore dans des années. Eh bien, il avait raison, Gérard. Voilà, absolument, on en parle encore. On peut vraiment, honnêtement, l'apprécier. Et il y a un bonus dans ce Blu-ray, édité par Gaumont. Je ne sais pas si on l'a encore dit. Blu-ray édité par Gaumont. Il y a un bonus extraordinaire où François Barra, le producteur du film, qui n'est pas un producteur extrêmement connu, mais qui a été très très actif dans ces années-là, dit énormément de choses sur le film, énormément de choses sur Duras, sur la relation avec Depardieu, et sur l'importance, quoi qu'il en soit, au-delà des années qui passent, de ce film de Marguerite Duras, Le Camion.
Vous l'avez vu, Joachim
Lafosse ? Moi, je ne l'ai pas vu, mais cette manière qu'avaient certains acteurs de soutenir des auteurs, de les porter, oui, de faire le parcours et le chemin ensemble, c'est magnifique, c'est beau. Super beau. Ouais.
L'intégrale de la collection Alfred Hitchcock présente.
Allez, tout autre chose chez le bel éditeur qui fait des belles choses et qui s'appelle Elephant. 268 épisodes dans un premier coffre. 268 épisodes fou, de 25 minutes chacun, dingue, bien sûr. 17 tournées par le maître en personne, les autres ils déléguaient la réalisation. Alors on trouve qui devant la caméra, Cazavette, Scotten, Peter Fulp, Bronson, Peter Lorre, Bette Davis, Claude Rains, Roger Moore, Steve McQueen, etc. Steve McQueen, absolument, à ses débuts. Et puis Robert Altman qui dirige, et puis Roald Dahl ou Ray Bradbury ou Philippe Roth au scénario. Bon, bref, c'est un truc de folie. Et il y a en plus un autre coffret, toujours chez Elephant, avec ce qu'on n'a pas vu en France, qui est 93 épisodes supplémentaires, d'une heure chacun, cette fois, dans la même case. Et puis alors, avec cette petite musique, hein, dont tout le monde se souvient, la marche funèbre d'une marionnette de Gounod, avec, vous savez, l'ombre, oui, de Hitchcock qui se dessine, et le Hitchcock qui vient expliquer de façon toujours merveilleuse ce qu'il va montrer.
Il y avait ça à la télévision belge ou pas?
Non, je pense pas.
Précipitez-vous sur les coffrets de chez Elephant.
Alors vraiment, il reste le cadeau pour, oui, Joachim Lafosse.
C'est un cadeau aux réalisateurs, notamment de l'économie du couple, parce que c'est la trilogie de l'amour de Yaron Chani, à Arte Edition. Je ne sais pas si vous connaissez cinéaste israélien. Oui. Trois films, hein, qui se passent à Tel Aviv, Chained, Beloved and Strife. Deux couples très précisément, avec deux films sur un des deux couples, et puis le troisième sur l'autre couple. Beaucoup de choses sur les rapports entre les hommes et les femmes en Israël, bien sûr, mais de façon plus universelle, bien entendu. Beaucoup d'angles, beaucoup de destins croisés dans ce qu'il montre, et avec une façon de chercher des acteurs qui ont des résonances avec les histoires qu'ils vont jouer dans le film. Et ça, ça crée quelque chose de très très étonnant, de très très particulier.
Mais je pense que c'est une des clés pour réussir ce genre de...
Il faut que ça résonne.
Enfin, de faire vivre ce avec type d'intimité. Ça, c'est public. Très curieux. Mais merci beaucoup.
C'est édité par Arte Édition, la trilogie de l'amour de Yaron Chani.
Merci beaucoup, Joachim Lafosse. On attend avec impatience votre 9e film.
Ah oui.
On espère bientôt. Merci d'être venu exprès de Belgique pour venir nous voir. On est vraiment émus, flattés, reconnaissants. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On vous laisse le générique. Il est à vous. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs, il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par David Leprince. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Joachim Lafosse, j'y étais